Chapitre 16. Les paraboles du chapitre 15 étaient adressées aux pharisiens, mais celle par laquelle débute ce chapitre 16 s'adresse aux disciples. Elle les instruit quant à la position dans laquelle se trouvent les hommes devant Dieu et quant au comportement qu'il leur convient d'avoir dans cette position. Nous sommes des économes et nous avons été infidèles dans notre administration. L'économe est ici accusé devant son maître comme dissipant ses biens. Cette expression fait la liaison avec la parabole précédente, car le plus jeune fils dissipa son bien en vivant dans la débauche. Tout ce que nous possédons vient de la main de Dieu, si bien que, quand nous gaspillons pour nous-mêmes ce que nous pouvons avoir, en réalité, nous dissipons les biens de notre maître. L'économe infidèle se trouve recevoir son congé. Il décide alors de tirer parti de certaines possibilités que sa position présente lui offre encore en vue d'en avoir le bénéfice plus tard. L'économe était injuste. Le Seigneur le dit nettement. Pourtant, son maître ne peut que louer la sagesse subtile avec laquelle il a agi, bien que ce soit au détriment du maître lui-même. En matière de prudence, dans les affaires de cette vie, les enfants de ce siècle l'emportent sur les enfants de Dieu. Les versets 9 à 13 sont l'application de la parabole à nous tous. Les biens de la terre, argent et choses du même genre, sont les richesses injustes, parce que ce sont les choses dans lesquelles l'injustice de l'homme se manifeste le plus, bien qu'elles ne soient pas injustes en elles-mêmes. Il nous faut employer les richesses de façon à amasser un bon fondement pour l'avenir. Voir 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Ou bien, comme le dit notre verset, afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Verset 9. Ce verset 9 nous montre donc que nous devons agir sur le principe adopté si sagement par l'économe. Le verset 10 montre que nous devons différer entièrement de lui en ceci, que ce qu'il a fait par injustice, nous devons le faire en toute loyauté. Les richesses injustes que les hommes cherchent par leurs efforts à acquérir d'une manière si acharnée et souvent si malhonnête sont après tout ce qui est très petit. À proprement parler, elles ne nous appartiennent pas du tout. Elles sont à autrui, puisque à l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient. Mais il y a les vraies richesses dont le Seigneur parle comme étant ce qui est vôtre. Si nous comprenons réellement que ce que nous possédons, c'est ce que nous avons en Christ, nous emploierons tout ce que nous avons dans cette vie, argent, temps, occasion, intelligence, en vue des intérêts de notre maître. De toute façon, nous ne pouvons pas servir de maître. Soit Dieu, soit Mammon, les richesses, dominera sur nous. Veillons à ce que ce soit Dieu qui domine. Quoique toutes ces choses aient été dites aux disciples, il y avait des pharisiens qui écoutaient, et ils se moquent ouvertement du Seigneur. Pour leur esprit avare, un tel enseignement était ridicule. Ils étaient partisans farouches de la loi, et la loi n'avait jamais prescrit des choses semblables. Le Seigneur leur répond en deux points. D'abord, ils s'occupaient de ce qui était extérieur, sous le regard des hommes, s'intéressant simplement à ce que les hommes avaient en estime. Ils laissaient de côté le Dieu qui s'occupe de l'état du cœur de l'homme, et dont les pensées sont entièrement opposées à celles de l'homme. Finalement, les pensées de Dieu prévaudront et celles de l'homme seront renversées. Mais en second lieu, la loi dont il s'enorgueillissait était en train de se faire remplacer par le royaume de Dieu. La loi avait prescrit les choses nécessaires à la vie de l'homme sur la terre, et les prophètes avaient annoncé le royaume de Dieu qui y serait établi. Le temps du royaume visible, universel, n'était pas encore. Néanmoins, ce royaume était introduit sous une autre forme par la prédication, et déjà, dans cette forme spirituelle, les hommes commençaient à y entrer, usant de violence. Les pharisiens refusaient de le voir, et restaient dehors. Mais, quoique la loi fût en train d'être remplacée de cette façon, il n'en tomberait pas un seul trait de lettre. Dans son domaine à elle, elle reste debout dans toute sa majesté. Elle est sainte, juste et bonne. Voir Romains 7, verset 12. Et ses ordonnances morales demeurent. L'ordonnance particulière, sur laquelle le Seigneur insiste au verset 18, était sans doute une attaque terrible contre les pharisiens, qui étaient très relâchés dans de telles choses, alors qu'ils s'occupaient activement de leur dîme, de la menthe, de la nette et du cumin. Cette vigoureuse critique est suivie au verset 19 à 31 par la parabole effrayante de l'homme riche, si tant est que ce soit une parabole. Le Seigneur emploie quelques expressions figurées telles que « le sein d'Abraham », mais il rapporte tout cela comme étant des faits. Les versets 19 à 22 relatent des faits très ordinaires de cette vie-ci, se terminant par la mort et l'enterrement, et là, le rideau tombe pour nous. Comme nous arrivons au verset 23, le Seigneur lève ce rideau et nous fait voir les choses qui se trouvent au-delà. L'homme riche agit sur le principe absolument opposé à celui de l'économe du début du chapitre. Tout ce qu'il possédait, il l'avait employé pour son plaisir égoïste du moment, et il avait laissé l'avenir prendre soin de lui-même. Le Seigneur ne s'en prend pas aux richesses, mais bien à l'emploi égoïste qu'en fait l'homme sans tenir compte de Dieu. L'homme riche ne s'intéressait qu'au présent, qu'à ce monde-ci. Le royaume de Dieu n'était rien pour lui. Le mot que Jésus emploie ici pour « enfer » est « Hadès », non pas l'étang de feu, mais le monde invisible des morts. Il nous montre donc que même celui-ci est, pour ceux qui ne sont pas sauvés, un lieu de tourment. Quatre fois, il déclare que le Hadès est un lieu de tourment. Il montre également que, une fois l'âme dans le Hadès, aucun changement n'est possible. Le grand gouffre est établi. Il n'y a aucune possibilité de passer des tourments à la bénédiction. Il n'y a ici pas de seconde chance. Maintenant qu'il est dans le Hadès, l'homme riche est animé d'un esprit missionnaire. Il désire qu'un messager d'outre-tombe soit envoyé à ses frères pour qu'ils échappent à ce lieu épouvantable. Le Seigneur nous montre qu'aucune visite d'outre-tombe, même si elle pouvait se produire, n'arrêterait les gens s'ils ne sont pas arrêtés par la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'adresse aux hommes par le Nouveau Testament aussi bien que par Moïse et les prophètes, et dans le Nouveau Testament est rapportée la vie de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Si les hommes rejettent la Bible, qui est pour aujourd'hui la parole de Dieu complète, rien ne les persuadera, et ils aboutiront au lieu du tourment. Oh, que nous soyons étreints par une conviction donnée par Dieu de la réalité de ces choses. Alors, la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes, étreignant aussi nos cœurs, nous serions pleins de zèle pour les âmes. Nous ressemblerions davantage à ce chrétien pieux du XVIIe siècle, Joseph Alleyne, contemporain de John Bunyan, au sujet duquel l'histoire rapporte qu'il était rempli d'un désir insatiable de la conversion des âmes précieuses. Et nous devrions être remplis de zèle pour les âmes, pendant que c'est encore le temps agréé, et le jour du salut.